Il est 8h sur France Inter, soyez les bienvenus. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, de plus en plus de monde dans la rue en Algérie. Des manifestants qui entendent s'opposer à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations marquées hier par une soixantaine de blessés et un mort. À suivre, l'assaut final mené en Syrie contre le bastion de l'organisation État islamique. Assaut mené sur Baghouz, où étaient retranchés les derniers combattants de Daesh. Un 16e samedi de mobilisation également en France pour les Gilets jaunes. Mobilisation à Paris, mais aussi en province. À la fin de ce journal, l'engouement pour les ciné-concerts. À 8h10, le journal des sports, présenté par Laetitia Bernard, avec notamment une médaille d'or pour le cycliste Quentin Lafargue aux Mondiaux sur piste. Et puis à 8h20, votre invité, Éric Delvaux, le candidat aux élections européennes, Thierry Mariani.
Oui, ancien membre du parti Les Républicains. On va parler des Gilets jaunes, de la campagne effectivement pour les européennes. Vous posez vos questions à Thierry Mariani sur franceinter.fr, à la page du 6-9 Weekend via l'onglet Réagir.
France Inter.
Cela fait donc une semaine maintenant que les Algériens descendent dans la rue pour venir crier leur opposition à la candidature pour un cinquième mandat consécutif de leur président sortant Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, âgé de 82 ans, quasi inexistant sur la scène politique depuis un AVC survenu en 2013. Hier encore, ils ont été des milliers à défiler dès la fin des prières dans le centre d'Alger, mais aussi dans d'autres villes du pays. Alger où une personne a trouvé la mort au cours d'une bousculade survenue lors d'affrontements entre policiers et manifestants. Des manifestations très difficile à couvrir pour les journalistes tenus à l'écart et qui doivent, comme Thibaut Cavaillès, se contenter bien souvent d'un suivi sur Internet.
Dès la fin de la grande prière du vendredi, des milliers d'Algériens ont dévalé dans les rues du pays. Alger, bien sûr, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, avec les mêmes slogans. Non au cinquième mandat, le peuple veut faire tomber le régime, ni Bouteflika, ni son frère Saïd. Une contestation pour demander plus que la fin de l'ère Bouteflika, le début d'un vrai changement, Ramzi, étudiant, l'a dit à des confrères sur place.
Bien sûr que je veux que ça change, sinon je ne manifesterai pas. Et pas seulement contre le cinquième mandat, on veut que tout le système change.
Dans les cortèges des Algériens de tous milieux, on a pu y voir des opposants, ou bien Djamila Bouhired, une grande figure de la guerre d'indépendance, ou encore des hommes d'affaires. Sans cependant d'appels partisans, et avec toujours un même mot d'ordre. Yara, étudiante à Alger, nous le disait en pleine manif algéroise grâce à Internet.
Vous pouvez entendre les chants pour un mouvement pacifique, il y a un monde fou.
Les Algériens sont encore traumatisés par le spectre de la guerre civile des années 90. Depuis 20 ans, ils n'ont connu qu'un seul président, déplore Zineida, algéroise de passage à Paris et mère d'un jeune homme de 20 ans.
Le jour où on a appris qu'il se représentait, toute la jeunesse n'en croyait pas ses yeux. On aurait cru à tout, mais pas à ça.
Demain est le dernier jour pour déposer les candidatures à la présidentielle. Si celle d'Abdelaziz Bouteflika devait être confirmée, les manifestants assurent qu'ils poursuivront leur mouvement.
Des manifestations au cours desquelles, selon des sources officielles, 63 personnes auraient été blessées, dont 56 policiers. Le camp présidentiel a jusqu'à demain soir, minuit, pour déposer officiellement le dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, actuellement hospitalisé à Genève.
Direction la Syrie à présent, où les forces démocratiques du pays, dominées par les combattants kurdes, mènent à l'heure actuelle l'assaut final contre le dernier réduit djihadiste.
Oui, assaut final contre l'enclave de Baghouz, située à l'est du pays, là où se trouverait le dernier bastion de l'organisation État islamique. Plusieurs centaines de combattants de Daesh y sont retranchés et résistent encore, tandis que la plupart des civils ont pu être évacués. Correspondance de notre envoyé spécial permanent dans la région, Aurélien Colli.
Quelques pâtés de maisons dans la périphérie est du village de Baghouz, un bout de territoire de moins d'un kilomètre carré. Les irréductibles de l'organisation État islamique, d'après les forces démocratiques syriennes, ceux qui refusent de déposer les armes, au contraire de centaines de djihadistes qui se sont rendus ces dernières semaines ou qui ont été identifiés au milieu des civils évacués. 50 000 civils qui ont fui les combats depuis janvier, plusieurs milliers encore ces derniers jours. Le dernier convoi de femmes et d'enfants est sorti hier de Baghouz assiégé. Les forces démocratiques syriennes accusaient les djihadistes d'utiliser les civils comme boucliers humains. Après 10 jours d'évacuation, elles estiment avoir désormais les mains libres pour lancer, je cite, l'opération nettoyage de la dernière poche. Leur état-major se donne une semaine. Ça prendra fin quand tout sera fini, indique plus prudent leur porte porte-parole. Fini le territoire de l'organisation État islamique, mais sans doute pas sa franchise et son idéal politico-religieux. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
À l'étranger, encore en bref, accusé de complaisance envers la Corée du Nord, Donald Trump se défend et assure notamment qu'il tient bien Pyongyang comme responsable de la mort d'un étudiant américain, un étudiant de 22 ans décédé en juin 2017 des suites de mauvais traitements infligés dans une prison nord-coréenne.
Retour en France, Serge, où les Gilets jaunes s'apprêtent à vivre aujourd'hui leur 16e samedi de mobilisation.
Une fois encore, des rassemblements sont prévus un peu partout en France, que ce soit à Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon ou bien encore Lille. Lille où la manifestation pourrait prendre une dimension internationale. Les Gilets jaunes français ont en effet appelé leurs homologues belges, anglais, luxembourgeois et allemands à les rejoindre. Rassemblements au cours desquels les forces de l'ordre tentent, via des cellules d'enquête spéciales, d'identifier et d'interpeller les meneurs et adeptes de la guérilla urbaine ou bien encore ceux que l'on appelle communément les casseurs. Des cellules qui depuis mi-janvier auraient déjà permis de procéder à une quarantaine d'interpellations, Emmanuel Leclerc.
À Bordeaux, ce sont 21 personnes qui ont été interpellées après enquête sur les 150 à 200 casseurs qui viennent chaque samedi depuis 3 mois. À Toulouse, ce sont une vingtaine également de très durs, selon un proche du dossier, qui se sont fait serrer a posteriori les 8 derniers la semaine dernière alors qu'ils fabriquaient des bombes artisanales. Dans les deux capitales du sud-ouest, ce sont à chaque fois des cellules spéciales d'une dizaine d'enquêteurs qui ont été mises en place, auxquelles il faut ajouter des profils en cybercriminalité qui ont pu infiltrer, selon nos informations, certains groupes d'activistes en gilets jaunes. À chaque fois, ce sont des centaines d'heures de vidéos qui sont analysées avec l'idée de voir si les suspects apparaissent en amont ou en aval de séquences où ils attaquent. Ça a marché à Bordeaux, par exemple, avec le trio de lanceurs de pavés qui utilisaient une fronde géante. 4 à 5 suspects sont désormais interpellés chaque semaine, confie l'un des chefs des investigations en Gironde, et on en a encore une vingtaine repérés avec leur visage, mais toujours pas identifiés formellement. On en a, nous aussi, plusieurs dizaines, confie son équivalent à Toulouse. Et ce sont ceux qui ont cherché à fracasser des collègues. On ne les lâchera pas.
Un dossier à retrouver sur franceinter.fr. À noter que ces gilets jaunes se préparent pour un grand rassemblement envisagé le samedi 16 mars. Ce sera à la fois la fin du grand débat, mais aussi l'anniversaire des 4 mois de ce mouvement.
À Charleville-Mézières, l'usine Peugeot-PSA ne se contente pas de fabriquer des voitures, non. Elle participe aussi au chauffage de la ville.
Et ce sont au total 3 quartiers de Charleville-Mézières, y compris son centre hospitalier. L'hôpital Manchester, qui bénéficie de la chaleur dégagée par la fonderie produisant des pièces pour les moteurs des voitures de l'usine PSA. Une chaleur récupérée et transportée par Dalkia, une filiale d'EDF. Le reportage sur place d'Alexandre Blanc de France Bleu Ardennes.
Gagnant pour l'écologie, une chaufferie au gaz a été supprimée. Ce sont 7000 tonnes de CO2 en moins qui sont rejetées chaque année, soit l'équivalent de 4000 véhicules retirés de la circulation. La chaleur produite par 9 des 160 fours de PSA suffit à couvrir 60% des besoins et même 100% le printemps et l'été. Et PSA aussi est gagnant. Stéphane Gelas est le directeur du site.
C'est un sujet qui améliore la compétitivité de l'usine. Parce que c'est bel et bien que nous vendons, à un tarif très modeste, mais nous vendons, donc c'est une ressource pour l'usine, cette chaleur fatale.
La chaleur est vendue à Dalkia qui la réinjecte sur le réseau et le système coûte moins cher qu'auparavant pour l'usager final. Un tarif en baisse de 15%, rien que pour l'hôpital de Manchester, ça représente une économie de 300 000 euros par an. Un système vertueux donc, qui n'en est qu'à ses débuts, explique Sylvie Giano, la PDG de Dalkia.
L'État souhaite multiplier par 5 ce type de projet. Alors, on regarde en ce moment la chaleur qu'on pourrait récupérer sur des sites industriels. Ça peut être également des data centers. Vous savez que les ordinateurs, hein, tout simplement, ça chauffe. Et donc, aller récupérer aussi cette chaleur sur des data centers, c'est intéressant.
Dalkia récupère déjà la chaleur de l'usine Arcelor à Dunkerque et d'un data center à Paris, un centre de données où fonctionnent de gros équipements informatiques.
Alexandre Blanc de France Bleu Champagne-Ardenne. Et puisque l'on parle chauffage, mais aussi voiture, sachez que cela va chauffer et rouler également aujourd'hui sur les routes de France et tout particulièrement de la région Rhône-Alpes pour le dernier chassé croisé de ses vacances d'hiver. Bison futé, voie orange ce matin et dans les deux sens. Le retour du Jedi, ce sera ce soir à la Philharmonie de Paris pour un Star Wars musical. On parle là de ciné-concert. Une manifestation désormais tendance avec par exemple The Artist à la Cité des Congrès de Nantes les 14 et 15 mai prochains. Ou bien encore Charlie Chaplin et le Kid au Nouveau Siècle de Lille. Ce sera les 15 et 16 mai. Le ciné-concert, une valeur sûre pour un engouement populaire, Willy Moreau.
L'un des derniers exemples en date, c'était à la mi-janvier, à la Philharmonie de Paris.
Amaury est un fan de ciné-concert, très attiré par le fait de voir les musiciens jouer en même temps que la projection.
Quand on a des musiciens qui jouent extrêmement fort et qu'on a la musique qui nous envahit, alors qu'en même temps on a des images qui sont très puissantes à l'écran, on est transporté, on est ému, on est bouleversé, on est en colère. Et c'est pas forcément une expérience sensorielle qu'on vit quand on va simplement voir un film ou simplement voir un concert ou un spectacle de danse.
Le ciné-concert plaît aussi parce qu'il se renouvelle, explique Emmanuel André, c'est le directeur des concerts et spectacles à la Philharmonie de Paris. Le ciné-concert se renouvelle et délaisse de plus en plus les films muets.
Ça a été tellement fait qu'on avait besoin d'investir des parties plus récentes, plus proches de nous, et aussi avec des musiques qui soient original.
Plus technique aussi, et qui demande au chef d'orchestre une synchronisation parfaite avec les images afin que la magie opère.
Et à noter enfin ce rendez-vous proposé au Grand Rex à Paris le 17 mars prochain pour un 2001 Odyssée de l'espace, accompagné, tenez-vous bien, par l'orchestre de Radio France. Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est la fin de ce journal, l'heure de retrouver notre chef d'orchestre, Éric Delvaux.
Merci.
En grande forme.
Oui, c'était le journal, faut le dire vite, de Serge Martin.